Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Bonsoir, nous sommes le lundi 8
Alimentaire,
février.
Mon cher Watson. L'émission.
Ah, y a eu une bande-annonce, une petite collision avec une bande-annonce. On ne fait plus assez de radio en direct assez souvent. Nous sommes le lundi 8 février, donc il est 18h. Vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, la relève, c'est donc 15 minutes au téléphone, Covid oblige, avec un jeune talent. Aujourd'hui, on va parler de gros plans sur des doigts, d'une pochette d'album et d'instruments. Mon invité est musicien. Bonjour Mathieu Delage.
Bonjour.
Ça fait très longtemps que je voulais faire cette émission avec vous et je suis très content de la faire, même si ça doit se faire à distance avec quelques petits carambolages. Vous êtes saxophoniste, baryton, on va y revenir dans un instant. Récemment, les éditions Chapeau l'Artiste ont publié Inner Voice, un album que vous avez enregistré avec Magali Albertini et Franck Veuze, qui sont tous les deux pianistes. Mais avant toute chose, je voulais vous demander comment allez-vous, comment va-t-on quand on est un jeune musicien et qu'on ne peut pas jouer en public?
Alors, comment on va? Disons qu'on prend son mal en patience un petit peu, et puis on va se féliciter quand même, parce que rien n'est parfait, mais on a quand même un petit peu d'aide quand même en France vis-à-vis de ça, même si c'est forcément pas parfait, mais qu'est-ce qu'il est parfait? Donc on va dire qu'on fait avancer, il y a quelques projets qui prennent forme, même si c'est pas encore la folie. Et puis en tout cas pour moi, j'essaye pas mal d'écrire et de me dire que comme ça, quand ça reprendra, on aura vu les choses un peu différemment et on aura d'autres choses à proposer.
Est-ce que vous êtes comme un sportif, vous continuez à faire des entraînements pour être toujours au top niveau? Parce qu'un musicien comme vous qui jouez en concert, vous avez un certain niveau à tenir.
Pour le coup, c'est vraiment, une des vraies problématiques de cette période, c'est qu'il y a pas mal de projets qui sont souvent liés, enfin, on va dire toutes les répétitions sont liées par rapport au concert, ce qui fait qu'il y a certaines choses, ou certaines personnes, ou certains groupes où on ne se voit pas, ou très peu. Après, au niveau personnel, en temps normal, pour ma part, je travaille quasiment tous les jours, au moins 2 heures si je n'ai pas un petit peu plus de temps. Donc là, je tiens à peu près ça. Il y a eu quelques semaines, des fois, un peu plus délicates, où j'avais clairement moins envie aussi. Mais pour le coup, j'ai une bonne hygiène de travail. Et puis, effectivement, il y a des trucs à garder. Mais ce qui manque le plus, c'est vraiment ce côté de représentation. Parce qu'une partie de ce qu'on veut faire passer, évidemment que tout se travaille. Mais il y a des choses qui se produisent sur le live et qui sont liées à des instants de concert et de durée, qui sont pas quantifiables en répétition, donc c'est vraiment ça qui manque.
C'est quoi? C'est l'adrénaline aussi? C'est le rapport avec le public? C'est la réaction du public?
Exactement, c'est tout ça en fait, et puis c'est nous comment on réagit, à une salle, à l'acoustique, à des choses qui peuvent arriver en live, mais finalement on arrive à passer outre et tout ça, et ces petites choses-là, ça pour le coup c'est vraiment l'entraînement, j'allais dire. Moi qui aime beaucoup le football, c'est un peu comme un joueur de football qui s'entraîne mais qui n'a pas les matchs. Nous on s'entraîne mais on n'a pas forcément les concerts ou très peu, ou alors c'est du streaming. C'est un peu ça, mine de rien, il y a des habitudes de même physique pour tenir aussi 1h30 ou 1h15 des fois de programmes plus ou moins complexes.
Dans le livret qui accompagne le CD, l'album, vous comparez le saxophone baryton dont vous jouez à la contrebasse, vous dites ressentir les vibrations de l'instrument. C'est quelque chose dont vous avez besoin, ça, ce rapport physique, parce que vous en parlez de façon très, très incarnée.
Ouais, alors en fait, j'ai fait un peu de contrebasse, et c'est un des trucs qui m'a marqué à la contrebasse, d'avoir cet instrument qui vibre contre soi. Alors, c'est quand même moins présent au baryton, il faut être un peu honnête. Par contre, on le sent quand même, mais on peut le ressentir sur plein de saxophones, en fait. Mais je trouve qu'au baryton, c'est un petit peu plus présent, parce que l'instrument est plus grand. Parce qu'en fait, on sent vachement...
Et vous pouvez décrire, c'est un instrument qui est... Par rapport à un saxophone que tout le monde a en tête, il fait quoi, 2 fois la taille?
À peu près, on est à ça. Par rapport à l'alto, on va être à peu près 2 fois la taille. On va être à 2 fois le poids aussi. Et puis, en fait, c'est ça qui est un peu au-delà des vibrations, même si elles sont importantes. Il y a quand même cet aspect physique. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas la même relation et la même vision. J'allais dire qu'on ne se cache pas de la même façon derrière un baryton, derrière une flûte piccolo ou qu'un... On a tous des instruments où je pense qu'on a l'habitude de vivre avec par rapport au public. C'est vrai que le baryton, ça paraît impressionnant. Et en même temps, il y a un côté que je trouve très... L'instrument peut paraître lourd et un peu gros. Et en même temps, je trouve ça super versatile. Et pour le coup, ça peut être très virtuose.
Oui, parce que vous vous en jouez d'une façon.
Paradoxe là.
Ouais, vous vous en jouez en plus d'une façon très intime. Votre disque, votre album, je sais plus comment on appelle ça. Ça s'appelle un album. Maintenant que ça se stream, j'ai l'impression d'avoir 90 ans quand je dis votre album. Mais votre album s'appelle Inner Voice, voix intérieure. C'est votre voix à vous que vous essayez de faire passer par la hanche du saxophone.
Bah ouais, c'est l'idée du type. Disons que encore une fois, je pense qu'un CD, c'est vraiment un instant. C'est un peu c'est une carte postale, c'est une photo, c'est un instant T de la vie. Là, ça a été enregistré il y a quasiment un an, jour pour jour, ce CD. Je pense que je referai pas la même chose là cette année. Même si, enfin, en tout cas, pas les mêmes morceaux, ce serait certainement dans la même voix. Mais je pense que c'est un besoin, c'est une voix intérieure. Et au-delà de la faire entendre, je pense que moi, c'était un besoin. Parce que j'ai fait beaucoup de CD avec des groupes différents, mais pas vraiment de projets personnels. Et c'était un besoin, du coup, ouais, personnel, de dire j'avais envie d'aller vers quelque chose. Alors, c'est un peu égoïste, mais pour moi. Et en me disant que ça pouvait plaire à d'autres gens, mais c'était une évolution aussi pour moi, c'est un travail que j'avais envie de faire pour moi, musicalement, essayer de voir où je pouvais aller dans certains registres.
Vous changeriez quoi, la setlist, les collaborations, ou la manière de jouer?
Alors,
ces morceaux-là?
Alors la setlist, ouais, c'est sûr. La setlist, c'est sûr. Les collaborations, pas sûr du tout, non, parce qu'en fait...
C'est pas sympa pour eux de dire.
La collaboration, je pense que c'est comme ça qu'elle va grandir en fait en partie avec Magali. Et donc non, on pense déjà à d'autres, on travaille d'autres répertoires avec Magali un petit peu justement en ce moment. Mais les collaborations, pas forcément, mais le répertoire c'est sûr. Et puis le recul, parce que enfin, je pense qu'on a, y a des, on a, pour moi c'est vraiment une très belle réalisation. Je suis content de tous les aspects. Enfin, mis à part qu'il y ait le Covid et que c'est pas la meilleure période pour faire une promotion, mais encore une fois c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et ça c'est loin d'être grave. Mais certainement le répertoire. Et puis, le répertoire principalement, tout le reste, je suis vraiment content en fait d'être arrivé au bout pour moi de cet instant-là en fait.
Alors vous nous direz tout de suite après si ce morceau-là vous l'auriez gardé. On vous écoute là justement. Mathieu Delage, vous êtes toujours là, nous sommes toujours sur Radio Campus, on écoutait donc un extrait de Schumann, alors j'ai essayé de dire le titre en allemand mais j'ai beaucoup de mal, Fünfstück im Volkston, opus 102, et ça s'appelle Mit Humor. Vous le garderiez celui-là ou pas alors?
Ah ben en fait, encore une fois, je pense que je les garderai tous, mais ce qui est marrant, c'est que pour le coup, c'est un dont je suis satisfait après l'enregistrement et dans lequel je croyais, c'est pas que j'y croyais pas trop, là. Enfin en tout cas, ce premier mouvement, c'est loin d'être... On va dire ce que je trouvais le plus évident pour nous. Et dans les retours que j'ai de gens, pas forcément du tout musiciens, c'est un des mouvements qui plaît beaucoup. Voilà.
Ah, mais alors moi, c'est un de mes préférés avec la danse orientale de Rachmaninov, marrant, en fait. Que je trouve juste sublime, la danse orientale. On peut la voir sur YouTube et j'invite tout le monde à aller la voir.
Mais pour le coup, moi, personnellement, je trouve que les deux danses de Rachmaninov... Enfin, c'était un vrai plaisir personnel parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui m'attiraient là-dedans. Et dans l'autre chose, je dirais que je pense que la sonate de Saint-Saëns pour basson, il y a un truc qui, bizarrement, enfin, il aurait pu l'écrire pour le saxophone baryton. Je trouve qu'il y a des, c'est peut-être la couleur où pour moi le saxophone est le plus naturel. Voilà, c'est ça que et le plus, c'est le plus idoine, je pense, là-dedans. Après, c'est pas pour ça que c'est le mieux. Mais voilà, et Schumann, je pense que c'était le truc un peu le plus délicat pour moi. Je savais pas un peu par où le prendre. Et j'étais pas persuadé quand on avait fini d'enregistrer de ce qu'on avait, enfin de ce que j'avais fait en tout cas avec Magali, ce qu'on avait proposé. Mais ça marche bien et il y a plein de retours là-dessus, c'est marrant.
Quand on lit sur vous, Mathieu Delage, quelque chose frappe, c'est votre ouverture d'esprit. Vous avez une formation classique, vous faites partie d'un quatuor de jazz qui s'appelle Morphing. Vous avez aussi étudié la musique indienne avec Patrick Moutal. C'est, on a l'impression que vous êtes très curieux, que vous avez envie de tout faire.
Ah, si je pouvais tout faire, je le ferais. Ce serait compliqué. Après, je ne sais pas si j'ai envie de tout faire, mais ce qui est sûr, c'est que...
Ou alors proposer la question autrement, est-ce que quand on aime la musique, on a envie de l'embrasser dans toute son intégralité, dans toutes ses variations?
Alors peut-être l'embrasser dans toutes ses variations. Le vrai souci, je dirais, c'est est-ce qu'on en est capable et où jusqu'où on veut aller là-dedans. Après, il y a plein d'aspects parce que le saxophone, c'est un instrument qui est pour le coup très versatile et qu'on ne connaît pas par le classique. Donc je pense que même quand on choisit cet instrument-là de base, enfant ou plus tard, moi j'ai eu une éducation très classique du saxophone et quand on dit ça c'est bizarre parce qu'on se rend pas compte que le saxophone, il a un répertoire qui existe, il est pas très large, il date de sa création, donc depuis en gros 1850, mais il y a quand même des choses. Et en fait le saxophone est surtout connu pour le jazz, donc je pense qu'on est, enfin quand je vois tous mes amis, etc., on a tous essayé un moment de faire du jazz.
Et
souvent on s'arrête parce qu'on pousse un truc, en fait, on pousse le classique, on va pousser ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Mais du coup, post mes études au conservatoire à Paris, j'ai eu envie de reprendre plein de choses, en fait, et d'aller un peu plus loin là-dedans, parce que ça me manquait.
Et pourquoi vous avez eu envie de faire un instrument qui a un répertoire classique, finalement, si étroit? C'est le goût du défi? C'est, je vais le faire quand même.
Pas du tout, c'est parce que, en fait, quand moi j'ai commencé le saxophone, j'avais 4 ans.
Ah oui.
J'avais aucune connaissance ni du répertoire, ni de... Et c'est souvent le cas, en fait, je pense, quand on est enfant et qu'on choisit un instrument... On ne le choisit pas pour un répertoire, on le choisit pour... ça peut être parce qu'on trouve que le saxophone est très beau, ça brille, parce qu'on a eu un contact avec le ou la prof et que ça nous... on se sent bien. Et en fait, le répertoire, on le découvre tard. Hein. Enfin, et le saxophone me plaisait déjà, en fait, beaucoup avant de découvrir le répertoire. Et donc, après, une fois qu'on a commencé à faire ses armes et que ça nous plaît, on avance là-dedans malgré ce qui pourrait être une faiblesse, mais qui... Il n'est pas, parce que j'aurais un répertoire très large, je serais pas allé voir du côté de gens qui écrivent de la musique, que ce soit pour le CD ou pour d'autres, pour faire des créations ou pour faire des transcriptions de musique qui me plaisait. Donc je pense que ça forge aussi un esprit et une réflexion, et c'est intéressant.
Qu'est-ce qui vous a plu dans la musique indienne?
Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans la musique indienne? Le prof de musique indienne, déjà.
Mais c'est bien, ouais.
Parce que c'était un peu un mythe au conservatoire.
Patrick Moutal, on va le citer. Patrick Moutal.
Ouais. Tout le monde me disait, mais quelles que soient les classes, c'était un des trucs assez rares, que ce soit des gens en violon, en piano ou en chant, et dans toute la classe de jazz, me disaient, mais il faut que tu ailles voir Patrick Moutal. Bon, alors j'ai fait la demande une année, puis en fait ça marchait pas, et puis en fait j'ai fait 3 ans après avec Patrick. Alors le bonhomme, parce que c'est un parcours très particulier pour le coup et peu conventionnel, et la forme des cours qui était peu conventionnelle aussi pour un truc comme le conservatoire de Paris quand même. On passait toute l'après-midi et la soirée du lundi avec lui, ce qui est quand même assez rare. Normalement, le cours, on y passe une heure. Évidemment, on écoute d'autres élèves, tout ça, mais c'était une vraie haute forme. Il y avait beaucoup d'écoute, en fait, et beaucoup d'échanges. Et puis, apprendre d'autres modes de musique, et puis, on va dire, un petit bout de culture, parce que si j'en ai 1% et demi, c'est bien, mais c'était voir autre chose. Et puis, c'était un rapport à l'improvisation qui n'était pas spécialement virtuose. Pouvait être, parce qu'on a un temps de développement dans la musique indienne, on prend le temps de dire les choses et de savourer une nouvelle couleur, un truc, chose qui manque des fois, je trouve, dans l'improvisation en règle générale. Voilà.
Je vois que le temps passe vite, il est déjà l'heure de nous quitter. Juste en oui ou non, vous avez le concert du 3 mars est toujours d'actualité à la 360 Factory, j'espère vous porter chance.
C'était une vraie question de la journée, on en parle avec Magali. En fait, on a 0 annonce officielle qui dit qu'on peut rouvrir des salles. Alors là, si j'étais un peu logique, je vous dirais que non, ça va pas tenir.
Je veux juste dire aux auditeurs d'aller regarder sur le site et de suivre. Vous pouvez aller sur votre site mathieudelage.com. Vraiment, je vous remercie. On doit se quitter, c'est l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir fait découvrir le saxophone baryton au mieux.
C'était donc la relève préparée, présentée par Christophe et réalisée par Jonathan quand même. Merci Jonathan. À 19h, les grandes ondes et toute la journée, votre programme sur Radio Campus Paris. Merci à vous.